Bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre le cours de notre récit sur l'histoire des villes, l'histoire de l'humanité. Et je vous parlais la semaine dernière de cette dualité fondamentale que j'ai traduite entre le cercle et le carré, qui est aussi un ordre féminin, un ordre masculin, et aussi cette opposition qui, elle, structure, je pense, à la fois l'histoire de l'humanité, mais surtout celle de notre présence et de notre transformation du sol, de notre territoire, et qui est entre une modification qui va être radicale, que l'on appellera l'homme, et une transformation, on peut dire, beaucoup plus douce, souple, qui fera dominer la nature. Donc, cette dualité n'est pas une évolution, n'est pas une succession dans l'histoire, et elle est simplement une alternance, et elle se retrouve à la fois dans une diversité que l'on peut retrouver sur les mêmes territoires. Donc ce n'est pas du tout une succession historique, si malgré il y a effectivement des époques dans lesquelles il y a une des formes qui dominent sur certains territoires, mais on peut dire que cette variété existe, a existé toujours et existe aujourd'hui dans les différents pays et dans les différents continents. Donc, depuis quelques décennies, est apparue une sensibilisation à l'écologie. Alors, ça apparaît comme une grande découverte, mais en fait, on ne fait que renouer avec cette opposition fondamentale, et je l'avais datée d'ailleurs dans les mythes fondateurs de Caïn et Abel de l'origine, alors à la fois dans les mythes, mais aussi dans les réalités. Et je vais revenir sur ce que les préhistoriens nous donnent comme explication sur les chasseurs-cueilleurs qui sont nos ancêtres et qui auraient été, on peut dire, dans une continuité qui aurait duré des dizaines de millénaires, 30 000, 40 000 ans, peut-être même plus, en tout cas, avant qu'apparaissent les formes des villes, des villages, tels que nos civilisations les connaissent. Alors, ça fait partie, et je vous l'ai déjà dit, ça fait partie d'une méthode scientifique qui pense qu'il y a des successions, des paliers dans une évolution, c'est une lecture, on peut dire, néo-darwinienne de l'évolution des espèces que l'on applique aux civilisations et qui me paraît être totalement, non seulement excessive, mais en plus de ça, théoriquement, une erreur. Donc, nous allons parler d'alternatives, donc pas forcément de cycles avec la notion de reproduction que le cycle amène, mais des basculements d'un côté ou de l'autre, pour différentes causes, mais en plus avec, dans les différents continents, des dominantes qui sont hétérogènes, qui ne sont pas du tout dans une sorte de grand dessin historique. Donc actuellement, en Occident, et je dis bien en Occident parce que notre vision aussi occidentale, c'est de penser que le monde pense comme nous, mais par exemple dans le cas de justement ce retour, on peut dire, à un monde plus près de la nature. C'est un phénomène qui n'est pas, même s'il se traduit dans les politiques depuis quelques années et quelques décennies, Mais ce n'est pas un phénomène récent. C'est quelque chose qui s'est, à mon sens, passé à la fin du XIXe siècle, où on a eu, là, on peut dire, une sorte de fin des villes telles que on les connaissait dans le millénaire que l'on venait de vivre. Et il y a un basculement vers une occupation des territoires qui est autre et qui va avec des allers-retours marquer le XXe siècle et un changement, on peut dire, de forme de civilisation dont on prend conscience dans ce XXIe siècle aujourd'hui. Donc, pour revenir à cette prise de conscience de l'écologie, c'est simplement une vision qui est autre du monde. Donc quand les écologistes parlent d'inversion du regard, ben, quelque part c'est justement ce qu'ils proposent, mais la réalité du monde n'a pas changé. Simplement c'est la manière dont on le regarde et dont on met la hiérarchie des valeurs, par exemple la nature par rapport à l'homme, à l'inverse, l'homme par rapport à la nature. Donc là, je ne suis pas là pour vous donner mon sentiment, si ce n'est que toute position qui est extrême dans un sens ou dans l'autre a des, on peut dire, des visées totalitaires au sens littéral du terme. Donc la réalité de l'humain, il est fait de cette alternance à la fois, de cette coexistence aussi, dans laquelle les deux formes vont exister. On peut dire, on aurait donc un conscient, un inconscient, avec la forme précédente qui coexiste avec la forme nouvelle. C'est pour cela justement qu'il y a cette richesse de l'humanité, c'est-à-dire que les civilisations ne meurent jamais, puisqu'en fait, elles ne font que se modifier, mais tout en restant dans la mémoire précédente. Alors, prenons par exemple l'histoire récente de l'Occident, de notre pays. Nous avons donc une période qui est l'Empire romain, pour parler de la France avec son extension, qui est effectivement une vision de modification du territoire sur l'orthogonalité, sur une transformation et de la nature, du paysage, et qui remplace par exemple les civilisations précédentes par exemple pour la France, et sans tomber dans le mythe d'Astérix et d'Obélix, et cette période romaine qui a duré 5-6 siècles a été ensuite remplacée par une période de 5 siècles, 6 siècles, jusqu'à ce que le Moyen-Âge retransforme ces villes ou ces villages qui étaient dans une même forme que la forme précédente, c'est-à-dire construit d'une manière beaucoup plus moins pérenne, en employant du bois, de la terre, et justement où on quittait la construction romaine. Donc on a, avec le Moyen-Âge, un retour justement à un matériau et à une civilisation matérielle différente qui s'inscrit dans le territoire, qui va le modifier et qui aussi veut accéder à une pérennité par rapport à un rapport à la nature beaucoup plus souple précédent. Donc, on est à la fin du cycle certainement, et on revient avec justement le goût d'aujourd'hui pour le bois, la terre, les matériaux biosourcés, vers cela. Alors, ma position n'est pas de dire c'est le bien, c'est le mal, c'est simplement de dire qu'il peut y avoir aussi des excès dans ce domaine. Alors, quand je vous disais qu'il ne s'agit pas d'un phénomène mondial, prenons par exemple la grande puissance émergente qui est la Chine aujourd'hui, avec ses 1 milliard, de, je crois, 350 millions d'habitants, eh bien, c'est un pays qui était un pays rural, avec bon, la nourriture de base, le riz, donc un pays qui est à la fois très peuplé mais très grand, et avec donc une occupation des territoires, fait de nombreux villages, de réseaux à très grande échelle. Et aujourd'hui, la politique de la Chine est une politique urbaine. Et donc ça, c'est pas dû à des hasards capitalistes, puisqu'il s'agit de régimes autoritaires et planifiés, dans lesquels la politique énoncée est de faire des migrations forcées, comme tous les pays totalitaires peuvent le faire, des déplacements de population vers les villes, et d'avoir d'abord, je pense, un contrôle social beaucoup plus important que la société beaucoup plus éparse et dispersée des campagnes, et en marche forcée, on ramène les gens et on les fait vivre donc dans du minéral, dans des immeubles, des gens qui avaient des lopins de terre, qui avaient des petits élevages, et cela d'ailleurs est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en Occident, mais qui est d'une grande brutalité, qui est certainement la plus grande migration forcée de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est passé sous silence. Donc, en fait, il s'agit d'une urbanisation donnée comme modèle idéal de société. Et alors on a donc ces villes que l'on voit, ces villes chinoises qui ont les apparences de pousser comme New York dans les années 20, dans les années 30. C'est-à-dire qu'en fait, cette forme d'urbanisation dense comme modèle, avec évidemment les usines, les modifications qu'il peut y avoir aussi de niveau de vie. Enfin, on tend vers un modèle urbain et vers un modèle qui est un modèle minéral, à opposition à justement ce rapport à la nature dans lequel les populations vivaient. Donc, tout ça pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'un phénomène mondial de prise de conscience écologique, même si les Chinois racontent n'importe quoi, qu'ils deviennent écologistes pour plaire à leurs clients que nous sommes. En fait, il s'agit de phénomènes exactement opposés et qui sont vécus dans cette Asie, donc, et tel que nous le vivons aujourd'hui. Alors, d'appliquer les mêmes mots de métropolisation au monde entier est, à mon sens, totalement faux, parce que en Afrique, ça ne se passe pas pareil non plus, et chaque continent le fait d'une manière différente. On a par exemple aussi au Moyen-Orient, où on a des peuples de Bédouins qui étaient des éleveurs nomades. Bon, évidemment, il y avait des villages et des villes aussi, mais d'une manière artificielle aussi, on crée aux Émirats, Dubaï, etc., des villes qui sont très minérales et qui sont justement à l'opposé de ce que nous vivons sur nos territoires, où actuellement nous sommes vers une dispersion à la fois de population et à la fois d'un rapport à la nature qui est totalement différent. Donc on va faire une pause musicale et on va reprendre dans un instant. Thank you.
Yeah.
Comme je vous disais, il ne s'agit pas, encore une fois, d'un combat du bien contre le mal, et je ne veux absolument pas donner une opposition ou un choix, d'ailleurs, que je serais bien incapable de faire, mais simplement de montrer que cette dualité existe. Alors, par contre, les extrêmes, alors on va prendre l'extrême par exemple, avec l'exemple de la Chine, il s'agit d'une société qui est totalitaire et contrairement à ce que tout le monde a cru, moi le premier, de penser que le progrès économique et l'amélioration des conditions de vie de ce peuple allait conduire à la démocratie, on se rend compte, c'est exactement l'inverse, que justement, on peut dire les avancées technologiques avaient notamment la reconnaissance faciale et puis tout le contrôle que l'on peut avoir avec les téléphones portables et la possibilité de surveiller les gens, fait que en fait c'est une société qui devient de plus en plus totalitaire et c'est contraire à tout ce qui avait été pensé et imaginé. Donc, ce modèle justement de société où on va vivre dans les villes d'une manière dense et surveillée, et les pauvres paysans que l'on amène de force vivre dans des immeubles où la vie est réglée avec un haut-parleur et des ordres, on est très près d'un univers concentrationnaire, et je pense que là, c'est un des graves problèmes dont on ne parle pas trop, mais qui est très inquiétant pour, je pense, pour l'avenir du monde. Mais enfin, bon. Donc, le modèle, on peut dire, urbain peut être aussi ce modèle du panoptique de surveillance et qui est beaucoup plus difficile et même impossible sur un territoire à disperser. Et donc, à l'inverse aussi, une vision aujourd'hui qui mettrait la nature en premier et l'homme comme un prédateur avec ce que l'on entend dire aujourd'hui, le comportement vertueux par rapport à la nature qui souffre. Et là, on tombe également dans un délire inverse, où on aurait une planète à respecter, le mot respect revient en permanence, et l'homme étant chargé de péché, et la nature qui souffre, donc là il y a une espèce de dolorisme occidental qui me paraît aussi avec une sorte de paganisme, reprenant les mots de la religion. Il faut le comportement vertueux et par rapport au comportement qui devrait être coupable, avec des punitions, enfin ce qu'on appelle, que certains appellent l'écologie punitive. Bon, tout ça est aussi inquiétant que le panoptique de surveillance dont je vous parlais. Donc, on peut dire que la société, elle doit être entre les deux, et les positions radicales de part et d'autre sont les positions totalitaires. Donc, cette position centrale, ce n'est pas un même temps, c'est à la fois être dans des possibilités d'alternatives, sachant que l'autre côté existe et qu'on peut y aller. Donc, je ne crois pas à une position neutre, et je reviens encore sur ce « en même temps », il ne peut pas y avoir, on ne peut pas être en même temps, on ne peut pas être en même temps homme et nature, et nature et homme. Il y a une position qui est majoritaire dans un sens, avec ses qualités et ses défauts, et il y a l'autre position, et les deux positions ne s'ignorent pas, et elles se nourrissent dans une sorte d'alternance qui peut être positive et tout à fait intéressante. Alors, il y a, par rapport justement à cette nature et ce rapport à la nature, il y a, je crois, d'abord une sorte de mythe actuel où la nature est bonne et l'homme est mauvais. La construction de la préhistoire, je reviens sur mes chroniques précédentes sur la préhistoire et la manière dont les préhistoriens nous présentent notre propre histoire, me paraît faussée par l'actualité immédiate. Je vous ai parlé de Néandertal et de la manière dont Néandertal était assimilé à la diversité, au respect de l'autre, aux migrants, aux prolétaires, on peut dire aux racisés entre guillemets aujourd'hui, et que on se devait d'un devoir moral de considérer que Néandertal était notre frère et notre égal, même si on savait qu'il ne l'était pas. Donc, ça, ce sont des aberrations, je pense, on peut dire, historiques aujourd'hui, et il en est de même de ce rapport à la nature à travers notamment le mythe du chasseur-cueilleur. Alors, je voudrais développer un instant cela. Alors, ce chasseur-cueilleur, c'est quelque chose qui apparaît comme une vérité absolue, c'est-à-dire que les gens de cette époque, les peuples, ils étaient des nomades qui était abrité sous des tentes légères, donc évidemment qui n'était pas dans du statique construit, et que pendant des millénaires et sous des climats totalement différents, puisque, comme vous le savez, dans la préhistoire, il y a eu des périodes très froides et des périodes aussi de grands réchauffements, mais aussi des périodes qui avaient des climats qui étaient semblables à celui que nous avons en pays tempéré. Donc il y a eu ces différences, et toujours, il y avait les chasseurs-cueilleurs. Donc ça, d'abord, il faut savoir que dans les peuplades, les peuples qui vivent dans un état à peu près semblable aujourd'hui, il n'y a pas on peut dire, cette radicalité du chasseur-cueilleur uniquement. Il y a simplement des gens qui vivent à la fois de chasse, de pêche, et qui également cultivent, plus ou moins suivant les pays, les sites. Il est évident que si on vit près du désert, c'est différent si on est dans la forêt, donc dans cette variété de ces populations restantes qui existent en Indonésie, au Brésil, en Afrique, mais qui sont pour lesquels on a des témoignages très, très précis, mais les modes de vie sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus diversifiés que ce fameux chasseur-cueilleur. Donc le chasseur-cueilleur, on supposerait que d'abord on cueille quoi? Alors sous les tropiques, on peut supposer qu'il y a une variété de plantes à cueillir. Les choses ne sont pas aussi simples. Il y avait donc la semaine dernière un reportage dans le Figaro sur un incident, une aventure qui s'est passée récemment où au Brésil, dans la forêt amazonienne, un Brésilien qui était à la fois qui connaissait la forêt, mais qui était un pilote, et il était avec un petit Cessna. Il a eu une panne de moteur et il a été obligé de se poser dans une clairière qu'il a pu trouver dans la forêt amazonienne. Donc, cet homme connaissait le pays, il avait de plus. Il était jeune, il avait fait des stages de survie pour l'Amazonie, donc il n'était pas étranger en cela. Avant que son avion brûle dans la clairière, il a eu le temps de prendre une torche, deux briquets, des bouteilles, quelques aliments, et il a survécu pendant 35 jours. Alors, il a appliqué, il racontait dans l'interview qu'il a fait avec le journal, les techniques de survie qui étaient complexes. Donc, il ne restait pas près des fleuves parce que la nuit, il y avait les anacondas, il y avait les guépards, il y avait les crocodiles. Donc, il savait qu'il fallait être près d'une hauteur. Il avait la possibilité de faire du feu, mais il a perdu 25 kilos pendant son mois et il a été sauvé que parce qu'il a entendu des tronçonneuses et plus ou moins légales, il est arrivé à trouver des gens et il est arrivé avec un état extrêmement faible. Alors il racontait qu'il regardait comment les singes se nourrissaient pour prendre des fruits, mais en fin de compte, c'était pas suffisant pour arriver à survivre. Donc tout ça pour dire que cette fameuse cueillette n'est pas simple. En plus de ça, dans les périodes hivernales, il n'y a rien à cueillir et on sait que dans les campagnes, bon, on stockait les noix, les graines, le blé que l'on moissonnait. On avait aussi, on fait des conserves de champignons, en fait, dans nos campagnes jusqu'à maintenant, mais que la période hivernale est très très longue, et puis se pose le problème de la conservation des habitats, des aliments dans les habitats, ce qui est totalement antinomique avec le fait d'avoir des tentes en cuir telles qu'on les voit sur les dessins des hommes préhistoriques. Donc, par exemple, les Inuits, on s'imagine qu'ils vivent dans des igloos ronds en blocs de glace. En fait, non, il s'agit d'abris de chasse. Et ils ont un habitat permanent qui est fait semi-enterré pour justement bénéficier de l'inertie de la terre. Ils ont des toitures, des charpentes en bois avec des toitures en tourbe très épaisses qui permettent l'isolation de l'habitat. Et également, ils bénéficient du fait d'avoir un climat froid et ils n'ont pas les problèmes de conservation des aliments qui sont les problèmes qu'auraient des populations qui seraient nomades. Donc, l'hypothèse que je faisais des villes de la préhistoire et que les grottes pariétales n'étaient que les supports alternatifs d'écoles, de formations de professionnels pour être des fresques sur des bâtiments et sur des habitats me paraît assez logique et de penser que cette histoire de chasseurs-cueilleurs pendant des dizaines de millénaires est une illusion parce que les populations peuvent être nomades à des moments, mais elles ne le sont pas à d'autres, suivant les saisons, et que les hommes peuvent mettre toutes les possibilités à la fois de l'élevage, de l'agriculture, même s'il ne s'agit pas de l'agriculture telle qu'on peut l'entendre d'une manière, on peut dire sur les grandes surfaces, mais qu'il y avait du jardinage et que c'était beaucoup plus logique. Donc, vous voyez que il faut tuer, je pense, certaines a priori pour avoir une approche beaucoup plus plurielle de l'histoire de l'humanité et pour mieux comprendre, puisque c'était le but du propos, pour mieux comprendre la société actuelle. Et vous voyez que même la lecture de la société actuelle entre les grandes villes et la campagne, entre ce rapport entre l'homme et la nature, comme nous y sommes dedans, nous n'avons pas une vision qui soit totalement neutre, parce que il y a tous ces rapports d'affect ou ces jugements moraux dont je vous parlais tout à l'heure, qui parasitent et qui font que nous n'avons pas une vision très claire du monde dans lequel nous habitons. Voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.